Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Je vais écrire, il n'y a pas d'autre sort pour moi. Ainsi naît une vocation d'écrivain, comme le raconte Colette. En 1955, hommage à la femme de lettres disparue un an auparavant, Colette et ses personnages. Ses amis parlent d'elle ici, la racontent, comme Audrey Hepburn, découverte par l'auteur de Gigi, le trésor qu'elle a trouvé sur une plage de Monte-Carlo.
La radiodiffusion française présente Colette et ses personnages. Une émission d'André Parineau, réalisée par Pierre Billard. Avec, par ordre d'entrée en onde, Jean Cocteau, Marie Skerlin, Kurnonski, Georges Vague, Maurice Chevalier, André Billy, Germaine Beaumont, Pierre Cize, Philippe Héria, Pierre de Guingamp, Jean Marais, Thierry Monnier, Marcel Jouandeau, Raymond Oliver, Philippe de Rothschild, Hélène Jourdan-Morange, Audrey Hepburn, Maria Le Hardouin et Alexandre Arnaud. Avec Claire Maffei, Valentine Tessier et Françoise Roset.
Madame Colette n'est plus, et déjà sa légende est vivante. Déjà nous voyons se dessiner, à très léger ou quelquefois très accusé, un visage qui n'est déjà plus celui que nous avons aimé, et sans doute pas encore le portrait que retiendra l'histoire. Mais ce dont nous sommes persuadés, nous tous, ses amis, c'est que quelque chose manque au monde qui s'appelait Colette. Une certaine façon de regarder les jours, une plume à nul autre pareille pour nous faire savourer les heures, un rire de santé magistrale, une voix riche et savoureuse qui portait l'écho de la vie la plus précieuse. Nous sommes quelques-uns, réunis aujourd'hui, qui voudrions ici même choisir entre 1000 souvenirs qui se présentent à nos mémoires le témoignage le plus délicat que Colette a pu nous laisser, le détail d'une visite, un mot, une des attentions charmantes dont elle était coutumière. Nous voudrions ainsi recomposer avec émotion et amitié les images les plus vives que sa vie a laissé dans nos cœurs. Et puissent ces offrandes contribuer à faire aimer davantage la Colette que nous aimons. Notre quête commence avec le siècle, et c'est Jean Cocteau qui dessine la première image de notre film.
1900. Sur les tables du salon de nos familles traînaient deux livres. L'un, mon oncle et mon curé, la main le touche sans qu'il disparaisse. Aussi ne nous tente-t-il point. L'autre, dès qu'on s'en approche, disparaît de la table comme par miracle. On avait à peine le temps d'entrevoir sa couverture en couleur par Job, dessinateur des albums historiques que nous trouvions dans notre cheminée de Noël. Jeanne d'Arc, Henri IV, Napoléon. La Corse est une île, un enfant inaki. Ce qui me faisait croire que les habitants de la Corse s'appelaient des inaki. Bref, en un éclair, nous avions entrevu, dessiné par Job, une écolière blonde assise sur son pupitre, le nom de l'auteur, Willy, et le titre du livre, Claudine à l'école. L'écolière à boucles blondes, assise sur son pupitre, un cahier de classe sur les genoux, n'annonçait pas le grand point et virgule noir et ambigu avec lequel Capiello, en caricature en polaire, fixa une fois pour toutes le type de Claudine. Les jeux sont faits, le tour est joué, cheveux courts à nœuds rouges, yeux de chèvre, large bouche, col rabattu, cravate lavalière, sarrau de toile, haute bottine, cette silhouette fera le tour du monde.
Et nous ne savons plus bien aujourd'hui, n'est-ce pas, cher Cocteau, distinguer dans cette silhouette romanesque ce qui en elle est seulement Claudine et ce qui n'est pas Colette. Comme en témoigne par exemple la romancière Marie Skerlin, qui, 40 ans après Colette, fut élève de l'école de Saint-Sauveur en Puisaye.
L'école de Saint-Sauveur était une école primaire supérieure. Mademoiselle Olympe Thérin, sa directrice, entrée vivante dans l'histoire des Claudines sous le nom de Mademoiselle Sergent, y avait aménagé un pensionnat. Lorsque Colette l'eut comme maîtresse d'école, elle devait avoir environ 26 à 30 ans à peu près. Mais quand je devins sa pensionnaire, elle n'était plus très loin de l'âge de la retraite, après avoir été nommée depuis longtemps directrice de l'école et avoir reçu les palmes académiques. Mademoiselle Thérin, telle que je me la rappelle après tant d'années, était une forte femme, tout en rondeur, le visage d'un blanc crayeux, les pommettes saillantes, le nez, son nez était en pied de marmite, il nous faisait faire pas mal de plaisanteries parmi les élèves. De ses yeux très mobiles s'échappait un regard assez singulier, tour à tour glacé ou rayonnant. Moulé dans une robe de satin noir à petits volants, un collier de jais cliquetait sur son opulente poitrine et lui donnait constamment l'air de sonner son deuil. Pourtant, elle ne montrait pas sa tristesse et ne sonnait que le rassemblement de ses filles, comme elle l'appelait ses élèves. Et cela, avec l'aide d'une dévouée servante nommée Edwige. Le souvenir de Colette planait sur toute la maison. Il imprégnait les murs, les dortoirs, le réfectoire, les classes. On en parlait tout bas, partout. J'étais incapable alors d'analyser cet envoûtement. Mais je me souviens très bien qu'à l'étude du soir, une grande qui m'avait prise en amitié, c'était ma petite mère, m'avait passé Claudine à l'école. C'est dans ce roman que j'ai appris à lire. Je veux dire à lire des histoires défendues en faisant semblant d'étudier l'histoire de France. Et c'est par ce livre et les autres de Colette que j'ai commencé à aimer les mots de la langue française dont elle s'est toujours servie en magicienne.
Mais il arrive quelquefois, n'est-ce pas, que les personnages bien réels se révoltent contre leur double romanesque. Ainsi en fut-il de Mademoiselle Thérin, qui ne voulut pas se reconnaître dans Mademoiselle Sergent. Elle vous fit un jour une confidence, n'est-ce pas ?
Elle me confia que depuis des années, elle portait comme une lame fichée dans sa chair le souvenir de ce que Willy et Colette, mais surtout Willy, car on sait maintenant que c'est lui qui eut cette idée, avaient écrit dans Claudine à l'école des mœurs saphiques de l'école de Saint-Sauveur. Mademoiselle Thérin était certaine qu'il ne s'était jamais rien passé de semblable chez elle, et encore moins dans sa vie, racontée sous le nom à clé de Mademoiselle Sergent. Si on la connaissait, on en était sûr d'ailleurs. À la veille de sa mort, cependant, et pour sa plus grande joie, sa blessure avait été guérie par Colette elle-même. Et voici ce qu'elle m'écrivit dans une lettre datée du 14 janvier 1937. « Si le souvenir des Claudines me trouve maintenant insensible, il m'arrive d'avoir le cœur gros en constatant le mérite de certaines de mes braves enfants, présentées par Willy comme des femmes chattes en puissance. Il faut vous dire, ma chère Maryse, que depuis notre précédent échange de lettres, j'ai renoué avec Colette. Et voici comment. Certains jours, une voisine, veuve d'un écrivain catholique, Madame Pravieux, me dit « Savez-vous que Willy agonise dans la misère ?» À quoi je répondis « Malgré ma sensibilité maladive, je n'ai aucune pitié pour Willy, la honte des écrivains dignes de ce titre. » Le lendemain, m'arrive la femme d'un mutilé qui me dit « Mademoiselle, nous voudrions obtenir la garde de la maison de Colette, et j'ai dit au notaire que vous sauriez lui écrire en notre faveur. » C'est ainsi que j'écrivis à Colette. Et dans sa réponse, elle me dit ses regrets d'avoir joué et laissé jouer avec des souvenirs d'enfance qui lui étaient si chers. Et quand elle est venue, nous sommes tombés dans les bras l'une de l'autre.
Au cours de ces entretiens, Colette devait nous confier ses remords, mais surtout sa joie de cette réconciliation. Mais sur cette période de sa vie, elle ne s'appesantissait jamais. Un témoin comme Kurnonski peut seul nous dire ce qu'étaient les fameux ateliers de M. Willy, où se rédigeaient tant de romans et de chroniques.
Il avait beaucoup de collaborateurs. Le public ne s'est jamais demandé comment Willy pouvait... Le dimanche, quand il faisait des lettres de l'ouvreuse, le public ne s'est jamais demandé comment il pouvait être dans cinq concerts en même temps et reconnaître du monde dans chaque salle. C'est un cas de don d'ubiquité absolument extraordinaire. Nous avons beaucoup travaillé dans la maison Willy, Colette et moi. Mais il est arrivé que Colette et moi, nous n'avons jamais collaboré ensemble. Moi, j'ai ici un exemplaire, je n'ai pas le temps de le chercher, mais enfin je l'ai là. Un exemplaire de Colette qui est magnifique, C'est l'ingénue libertine où Emma mis comme dédicace à mon vieux cure, à l'auteur d'un petit vieux bien propre, à l'auteur d'une plage d'amour, à l'auteur de Maugite en ménage, à l'auteur de etc., etc., l'auteur des Claudines. C'est net comme un coup de sabre. J'en ai fait 13 pour la maison Willy.
L'idée ne vous est jamais venue, cher Kionowski, de reprocher à Monsieur Willy de signer de son nom les romans que vous écriviez?
Mais je lui en étais reconnaissant, parce que comme j'étais inconnu à ce moment-là, ça me rapportait beaucoup plus. C'est même grâce aux bénéfices que j'ai fait dans la maison Willy au moment du franc or que j'ai pu me promener dans toute la France avec de belles filles, n'est-ce pas, et les faire bien dîner.
Mais, cher Kionowski, avez-vous également travaillé aux Claudines? C'est Claudine, une des plus brillantes productions de la maison Willy et qui devait attendre si longtemps avant d'être signée du nom de leur véritable auteur, Colette.
Le public s'imagine très souvent que Colette était son nom de baptême, son prénom. Pas du tout, c'était son nom de famille. Et s'appelait de son vrai nom Gabriel Colette. Et elle avait pour père un délicieux vieux combattant de 70 qui marchait avec un pilon, mais qui était un gars qui connaissait le vin, n'est-ce pas, et qui était un fin lettré. Un bonhomme très intelligent. Je l'ai connu en 93, au moment où elle venait de se marier avec M. Willy, qui ne s'appelle pas plus Willy, que je ne m'appelle Kionowski, qui était le fils de l'éditeur Gauthier Villard. Et je remets encore Colette avec des tresses. Elle avait d'immenses cheveux qui descendaient jusqu'à ses mollets. Qu'elle avait tout nu d'ailleurs, qu'elle reportait des chaussettes. Je me rappelle encore ce détail. C'était une gamine. Et un jour, ils habitaient à ce moment-là rue Jacob, Colette. Comme dit François Copé, la rive gauche est du côté du cœur. Ils habitaient rue Jacob, et un jour, Willy, car je travaillais dans la maison, Willy me dit, dis donc, il y a Colette a écrit des souvenirs d'enfance. Je crois que c'est très bien, je voudrais que tu lises ça. Il m'a passé un volume de 600 pages, qui était énorme. Bon. Mais quand je l'ai lu dans la nuit, j'ai eu l'impression du génie. Je me suis dit, ah, ça c'est un patron. Bon. Et j'adorais Colette à ce moment-là, et si j'ose dire, comme au 7e siècle, c'est Manuel et Guillet. Je l'ai dit à Willy. Bon. Et il m'a dit, oui, mon gars, mais c'est un peu long. C'est un peu long. Il faudrait corriger ça et puis mettre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Veux-tu t'en charger? Oh, je lui ai dit non, mon vieux maître, non. Ça, c'est pas possible. Il faut connaître Colette comme vous la connaissez. Je dirais presque qu'il faut avoir couché avec, n'est-ce pas, pour retirer le chef-d'œuvre qui est là-dedans. Alors, il s'est réfugié dans sa propriété de Montboucon, qui était à côté de Besançon. Il s'est réfugié là avec Colette, n'est-ce pas? Et pendant 2 mois, à la suite de corrections conjugales, n'est-ce pas, il est arrivé à ramener chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Puis, il a fichu ça dans un tiroir. Bon. Il l'a proposé à 10 éditeurs. Personne n'a compris. Sauf Valdagne, qui m'a dit un jour, dis donc, mais il y a un manuscrit de Colette quelque part, n'est-ce pas? Mais je lui ai dit, oui, il est chez Willy, mais il dit, voudrais-tu me le passer? Et c'est comme ça que Colette a été éditée chez Ollendorff.
Voici donc Colette qui débute dans la littérature. Il y a 55 ans de cela. Pour tous, c'est la belle époque. Et c'est à vous, Jean Cocteau, que je demanderai de nous restituer une image ciselée de ce temps-là.
Ici, au palais de glace, les Brandebourgs ornent la tunique vert-olive des professeurs à toque de caviar. À bottines de midinette, ils valsent. Les cocottes s'appellent lianes de ceci, lianes de cela. Toutes ces lianes s'enroulent autour du professeur. Le manchon bat, elles s'élancent, virent, s'inclinent, se redressent, imitant les nobles courbes des embouchures du métro, et les yeux baissés traversent la piste. Pendant les haltes, les patins d'argent vissés au talon Louis XV, elles boitent vers les lavabos où se juchent en cale sèche autour des tables. Une de ces tables groupait Willy, Colette et Tobichien, son bulldog. Willy, sa grosse moustache, et l'impérial de Tartarin, l'œil vif sous la paupière lourde, la cravate lavalière, le chapeau haut de forme monté sur auréole de carton, les mains d'évêque réunies sur le pommeau de sa canne. À côté, une Colette mince, mince, une espèce de petit renard en costume cycliste. Au vestiaire, on dévissait nos patins et les bonnes nous houspillaient, nous traînions et nous prolongions notre départ jusqu'à l'extrême limite du possible. Il s'agissait de tricher sur l'heure des familles et d'assister une minute à l'entrée en scène des cocottes et des artistes. Alors surgissait une créature dont le nom déjà dans cette enceinte était un chef-d'œuvre, polaire. Une tête plate de serpent jaune tenait en équilibre les huîtres portugaises de ses yeux clignotants de nacre, de sel, d'ombre fraîche. Les traits bridés, tendus, noués sur la nuque par un catogan noir de percheron, le feutre à la renverse au-dessus de la frange, une bague de lalique en guise de ceinture, la jupe de gommeuse découvrant des chaussettes et des bottines aux patins cruels, l'actrice, violente comme une insulte en langue juive, se tenait au bord du ring, droite et raide, dans une pose d'attaque de nerfs.
Approchez, Georges Vague. Nous sommes maintenant en 1904 et vous êtes le personnage du destin choisi pour tourner une page de notre histoire.
C'est vers 1904 que nous nous connûmes avec Colette. Je venais de remporter quelques petits succès à la suite de notre création avec Christiane Mindlis dans les cantomimes de Xavier Privat. Mon nom commençait à tracer son petit cheminement. C'est alors que Willy me demanda de régler à Colette des scènes mimées qui devaient seulement être représentées en petit comité ou représentation à bénéfice. Émile Villermoz au piano et moi pour la mise en scène avons donc fait travailler notre jeune néophyte sur des musiques de Édouard Matté, Chantrier et quelques autres jeunes compositeurs de l'époque. Willy, à cette époque, était un des rois de la vie parisienne. Son patronage était une espèce de garantie de succès. Nous préparions, Albert Chantrier, Léon Lambert et moi, le mimodrame La Chair, celui que Colette, dans La Vagabonde et dans L'Envers du Music-Hall, a nommé L'Emprise. La première représentation à la Gaîté Rochechouart, qui, à l'époque, était le concert music-hall d'où partaient toutes les vedettes, eut un tel succès que nous devions par la suite voyager pendant 6 ans en France et à l'étranger avec ce mimodrame ainsi qu'avec un autre nommé L'Oiseau de Nuit. C'est également à cette occasion que je fis la connaissance de Sido, la Sido si chère au cœur de Colette. Elle venait de temps en temps faire de petits séjours avec sa fille à Paris. Et naturellement, Colette l'amenait aux répétitions à la Gaîté Rochechouart. Je voyais arriver une petite bonne femme d'aspect modeste, un mélange de paysanne et de bourgeoise de province, futée, intelligente, tellement éveillée et pas trop dépaysée dans notre milieu pourtant si loin d'elle. Ça l'amusait beaucoup de voir sa progéniture bousculée, voire même brutalisée par son partenaire, moi, en l'occurrence. On m'a souvent demandé mon opinion, naturellement, sur les qualités de mime de Colette. Et je ne pouvais que répondre d'une façon un peu déconcertante. Colette joue la pantomime comme elle écrit. Or, elle écrit comme personne d'autre. Elle était comme élève exemplaire et d'une compréhension inouïe. Elle écoutait religieusement les indications et les conseils. Elle se prêtait à des exercices préparatoires fatigants, sans jamais se lasser. Elle jouissait d'ailleurs d'une santé merveilleuse. Et puis, finalement, elle déclarait, après une longue réflexion, « J'ai compris. Pour moi, j'ai pour Colette une grande reconnaissance. Intéressée, d'ailleurs. Car en dehors de nos petits intérêts particuliers, j'allais, grâce à elle, passer à la postérité. Car n'est-ce pas elle qui a créé, d'après moi, le personnage de Braque ? »
C'est lors d'une de ses tournées en votre compagnie que Colette devait faire une rencontre qu'elle conta plus tard ainsi dans La Vagabonde.
Cavaillon, jeune et déjà célèbre au music-hall, y fait l'envie de tous. On dit de lui que Dranem le craint, qu'il gagne ce qu'il veut. Nous avons déjà croisé deux ou trois fois la route de ce long gars de 22 ans qui marche en homme serpent, comme désossé, et balance des poings si lourds au bout de poignets frêles. Sa figure est presque jolie, sous des cheveux blonds coupés en franges, mais son trouble regard mauve errant dit la neurasthénie aiguë, presque la démence. Son mot, c'est « je me crève ». Il attend toute la journée l'heure de son numéro, pendant lequel il oublie sa muse, redevient jeune et emballe le public. Il ne boit pas, il ne fait pas la noce, il place son argent et il s'ennuie.
Or, Cavaillon n'est autre que Maurice Chevalier. Et de New York, par-delà l'océan, Maurice Chevalier triomphe de l'espace pour remonter dans le temps. Allô, cher Maurice, nous vous écoutons.
Allô, Paris, RTS Paris. Allô, alors je vous l'envoie par où vous voulez. Moteur. Merci, je l'envoie.
J'ai fait la connaissance de Colette en 1906, à une époque où j'étais en représentation au Casino Kursaal de Lyon, où je devais avoir, je ne sais pas, 17 ans, 16 ans, quelque chose dans ce genre-là. Et j'étais déjà, et j'en suis très fier, j'étais déjà la vedette du spectacle du Casino Kursaal, car c'était la deuxième année où je chantais à Lyon, et j'avais eu la première année un bon succès qui m'avait permis d'être la vedette pour la deuxième année du spectacle. Comme attraction égale, comme vedette américaine, ce qu'on peut appeler, il y avait au programme une pantomime où il y avait Georges Vaille, Christine Kerf, qui étaient des grands mimes, et Colette Willy. Colette Willy avait déjà lancé cette pantomime à Paris, à l'Apollo. Je l'avais vu en tant que public, là. Colette Willy était une femme d'une trentaine d'années à cette époque-là, trapue, mais très joliment trapue, une fille, ce qu'on appelle bien en chair, avec un visage de joli renard. Elle était réellement très, très attrayante. On avait beaucoup parlé d'elle dans la presse, car elle était la femme d'un grand écrivain qui s'appelait Willy, et elle s'en était séparée, justement, et pour gagner sa vie, était venue au musical dans un numéro de pantomime. Quand elle était avec moi au Casino Kursaal de Lyon, je regardais de la coulisse très souvent son numéro, parce que cette femme-là était très attrayante, elle m'attirait énormément. Je la regardais, je pensais qu'elle avait quitté une vie de bien-être et de certitude pour commencer ce métier de musical. Et dans cette pantomime qu'elle faisait, il y avait quelque chose qui se produisait, qui était très nouveau pour l'époque et qui était très très fort pour l'époque. À un moment, dans une lutte avec Georges Vaille, son corsage se déchirait et apparaissait un sein nu à la salle. Et comme c'était la première fois que ça arrivait, c'était un peu scandaleux, mais merveilleusement attractif. Ça aidait forcément à la recette du spectacle, car on parlait en même temps et de son histoire de rupture avec Willy et de son histoire de rupture avec son corsage aussi, comprenez-vous, et ce qu'elle montrait était vraiment très très beau à regarder. Alors évidemment j'étais amoureux d'elle, tous les hommes qui voyaient cette apparition avaient forcément des idées qui les menaient du côté de l'amour, n'est-ce pas. Et je n'osais pas lui parler parce que elle était plutôt une dame d'un autre monde que le mien, d'un monde plus intellectuel. Je n'osais pas lui parler, mais je ne vous cache pas que j'avais un genre d'amour blanc pour elle, un genre de béguin très très précis. Je me rappelle qu'un jour, elle m'avait vu près de la coulisse comme ça, et on avait bavardé, et ensuite je me suis rendu compte que quand elle bavardait avec moi, elle travaillait, car c'est le moment où elle a écrit un livre qui s'appelait La Vagabonde, et dans lequel elle a cité un artiste, un jeune artiste avec lequel elle avait travaillé, qui était très jeune, qui avait des yeux bleus, qui était blond et qui marchait dans la rue avec un air si neurasthénique qu'on se demandait pourquoi ce garçon-là, avec le succès qu'il avait, puisque, disait-elle, déjà à cet âge-là, les plus grands comiques de France le craignaient, on se demandait pourquoi il était si triste. Je l'ai revu par la suite. Je lui ai dit, d'ailleurs, je lui ai dit, écoutez, Colette, vous m'avez tout de même un peu traité du côté romantique dans le balde. Vous savez, quand on écrit des romans, il faut bien écrire romantique. Et je me rappelle que, pas mal plus tard, quand elle était devenue un peu plus que trapue, et même beaucoup plus que trapue, malheureusement, je lui avais dit un jour où j'avais déjeuné chez elle, « Vous savez, Colette, que j'ai eu pour vous un béguin du tonnerre lorsque j'étais à Lyon avec vous. » Et je me rappelle qu'elle m'a répondu avec son accent spécial, « Ah, quel dommage, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit à ce moment-là » Ça aurait été tout à fait autre chose.
Merci Maurice Chevalier. Et cette actrice de musical, cette vagabonde, si intimidante et si belle, un autre nous la présente maintenant, plus littérairement peut-être, mais avec non moins d'émotion, c'est André Billy.
C'était en 1907, l'année de La retraite sentimentale, le premier livre que j'ai lu d'elle, et qui, pour cette raison sans doute, est resté un de ceux que je préfère. Je me rappelle une certaine soirée sur une petite scène d'Auteuil qu'on appelait, je crois, le théâtre Morse. Elle y avait dansé. Tout le monde littéraire du 16e arrondissement, et même d'ailleurs, était là, guidé par une amie qui la connaissait. Je me dirigeais vers sa loge dont la porte s'ouvrit à l'improviste et je vis Colette l'espace d'un éclair, car la porte se referma aussitôt, l'habilleuse étant intervenue au nom des convenances. Ce jour-là, je n'approchais pas Colette davantage, je restais dans le couloir à réfléchir sur les caprices de la pudeur, et attendant que l'ami qui m'avait accompagné fût ressorti de la loge. La porte se rouvrit au bout de quelques minutes, mais je ne vis plus rien. Telle a été ma première entrevue avec Colette, et le mot « entrevue » prend ici toute sa force, puisque je ne fis en effet que l'entrevoir. Plus tard, je lui ai rappelé ce minime incident, dont j'avais gardé un souvenir si vif, mais la vagabonde avait dansé sur tant de scènes. Elle s'était déshabillée, maquillée, démaquillée, rhabillée, dans tant de loges. Elle ne se souvenait même plus de cette soirée-là, ni de ce petit théâtre d'Auteuil, qui sans doute n'existe plus. La vagabonde, encore un de ces livres que je rouvre avec le plus de plaisir, parce qu'il est lié à mes souvenirs de jeune écrivain. Colette, lui ai-je demandé un jour, on m'a raconté quelque chose qui date du temps où vous vagabondiez en province pour y jouer la pantomime avec Georges Vague. Vous allez me dire si c'est vrai. Dites, mon petit Billy, dites. Car j'étais son petit Billy. Quand elle ne m'appelait pas mon chou, terme d'amitié dont je n'avais certes pas le monopole, mais qui me faisait grand plaisir tout de même. Eh bien, Colette, voici. Il paraît qu'une nuit, que vous étiez dans le train de Marseille avec Georges Vague, et que vous descendiez en dormant la vallée du Rhône. Votre compagnon vous a réveillé pour vous dire « Regarde, Colette, le magnifique clair de lune sur les cyprès et les oliviers. » Alors, vous auriez ouvert un œil en grognant, auriez jeté un bref regard de pure complaisance sur le paysage que Georges Vague trouvait si beau, et qui devait l'être en effet, et vous seriez rendormi aussitôt. C'est bien possible, me dit Colette, mais je me souviens pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a là d'intéressant? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Laissez-moi finir, chère Colette. Il paraît que le lendemain, vous aviez un article à faire. Ça aussi, c'est bien possible. Et que vous ne saviez pas quoi dire, vous n'aviez aucune idée, aucun sujet en tête. De plus en plus vraisemblable. Alors, après vous être creusé en vain la tête, vous avez écrit le clair de lune sur la vallée du Rhône, et votre description était un chef-d'œuvre à la fois de poésie et d'exactitude. Cela fit-elle en riant, c'est moins sûr. Et puis, je ne me rappelle pas cette petite histoire, mais exactitude et poésie à part, je ne me sens pas autorisé à la démentir. L'œil de Colette, le regard de Colette, était un appareil enregistreur extraordinaire. Pour moi, l'anecdote du clair de lune sur la vallée du Rhône est certainement vraie. Georges Vague ne l'aurait d'ailleurs pas inventée. Si le regard de Colette était rapide et perçant, sa plume l'était moins. Combien de temps mit-elle à décrire le clair de lune sur la vallée du Rhône? Je ne l'ai pas su, l'anecdote ne le disait pas. Mais Colette a laissé la réputation de quelqu'un qui travaillait difficilement, ce qui est confirmé par une page de cette vagabonde, si évocatrice de la Colette d'avant la gloire, de Colette danseuse et mime, qui, pour vivre, devait courir de music hall en théâtre et de théâtre en casino à travers les provinces. Écoutons parler l'héroïne du livre.
Écrire. Pouvoir écrire. Cela signifie la longue rêverie devant la feuille blanche, le griffonnage inconscient, les jeux de la plume qui tournent en rond autour d'une tache d'encre, qui mordit le mot imparfait, le griffe, le hérisse de fléchettes, l'orne d'entête, de pattes, jusqu'à ce qu'il perde sa figure lisible de mots, muet en insecte fantastique, envolé en papillon fée. Écrire, verser avec rage toute la sincérité de soi sur le papier tentateur, si vite que parfois la main lutte et renâcle, surmenée par le dieu impatient qui la guide, et retrouver le lendemain, à la place du rameau d'or miraculeusement éclos en une heure flamboyante, une ronce sèche, une fleur avortée. Écrire, plaisir et souffrance d'oisifs. Écrire, j'éprouve bien de loin en loin le besoin vif, comme la soif en été de noter, de peindre. Je prends encore la plume pour commencer le jeu périlleux et décevant, pour saisir et fixer sous la pointe double et ployante le chatoyant, le fugace, le passionnant adjectif. Ce n'est qu'une courte crise, la démangeaison d'une cicatrice. Il faut trop de temps pour écrire. Et puis je ne suis pas Balzac, moi. Le conte fragile que j'édifie s'émiette quand le fournisseur sonne, quand le bottier présente sa facture, quand l'avoué présente sa facture, téléphone, et l'avocat, quand l'agent théâtral me mande à son bureau pour un cachet en ville chez des gens tout ce qu'il y a de bien, mais qui n'ont pas pour habitude de payer les prix forts.
Voulez-vous, cher Billy, connaître la vérité sur ce compte rendu d'un clair de lune sur la vallée du Rhône? Georges Vague va nous l'apprendre.
Nous étions en représentation à Genève quand je reçus du directeur de Lausanne la proposition de venir donner 3 représentations dans son casino. Comme après Genève, nous devions rentrer à Paris, la tournée étant terminée, nous avions donc quelques jours de libre. Je soumis l'idée à Colette et le lendemain, nous prenions le bateau à 11h qui nous amenait vers 14h à Lausanne. On déjeunait à bord, c'était en même temps une petite partie de promenade. Le repas sur le bateau avec les camarades qui nous accompagnaient fut très gai. Après le café, Colette, suivant son habitude, s'endormit doucement au ronron du moteur. Elle arrivait à Lausanne, on la réveilla. Elle n'avait pas plus que nous admiré le paysage pendant le voyage du tout. Le soir, au retour, nous étions en automne. Il faisait nuit et déjà frais. On est donc resté dans les salons. Eh bien, le lendemain, elle envoyait au matin, auquel elle collaborait régulièrement, une relation des bords du lac, pleine de détails et d'aperçus pittoresques, d'une précision déconcertante. Elle avait enregistré, sans y faire attention, toute cette description.
Et c'est ainsi que naquit une Colette journaliste. Une autre page où s'inscrivent les souvenirs de Germaine Beaumont et de Pierre Cise.
En 1919, Colette, qui était alors Madame Henri de Jouvenel, n'eut probablement jamais fait de journalisme si Henri de Jouvenel n'avait été rédacteur en chef au matin. Mais Henri de Jouvenel était un remarquable rédacteur en chef et il comprit le rôle que Colette pouvait jouer à la tête du service littéraire d'abord et aussi comme critique dramatique.
Je l'ai vu d'abord dans cette grande maison rouge du boulevard Poissonnière au matin. C'était une maison dont je n'aimais ni les méthodes ni les gens qui les appliquaient, mais Colette était dans cette entreprise une radieuse exception, une oasis. Dans son petit bureau vibrant du bruit des rotatives, cabine de paquebot hantée par les machines, elle tenait boutique d'esprit. À peine en avait-on refermé la porte sur le monde extérieur qu'on l'oubliait.
De son passage au music hall où le travail et les représentations sont calculés à une minute près, Colette avait gardé, et cela correspondait chez elle d'ailleurs à une disposition naturelle, une ponctualité de métronome. À 5h ou à 4h30, on la voyait assise devant une énorme table dont l'indigence artistique offensait sa vue. Aussi la recouvrait-elle de papiers et d'objets fétiches apportés du boulevard Suchet où elle habitait alors. Déjà, le goût des presse-papiers, des ludions et des bibelots de verre la guidait chaque dimanche vers le marché aux puces de Saint-Ouen. Mais sur le bureau du matin, elle se contentait d'un œuf de cornaline, ou sinon de cornaline, du moins d'une matière légèrement translucide et qui avait la jolie couleur morose de la gelée de coin. Cet œuf, ainsi qu'une pierre dure chinoise, que de fois je la vis les tourner entre ses doigts, avec une constante délectation. Colette se servait toujours pour écrire d'un gros stylo. À droite et à gauche du bureau s'étageaient deux piles de manuscrits, ceux qui étaient déjà lus et ceux qui allaient descendre à la composition. Ils représentaient les contes que Colette devait sélectionner pour une publication quotidienne, après que j'eusse, par une première lecture, éliminé ceux qui ne pouvaient convenir.
C'est là que je vis pour la première fois cette crinière superbe, cet œil félin qui dardait de côté un regard aigu, rapide et qui voyait tout, ce nez subtil et flaireur au-dessus de la belle bouche meurtrie et ce menton qui reposait allongé sur le jabot d'une écharpe, la Colette des années 20 de notre siècle. C'est là que j'ai entendu pour la première fois cette voix fruitée, caillouteuse, qui croquait les mots comme l'enfant fait une pomme.
Colette était modeste. Elle soumettait volontiers au jugement d'autrui ce qu'elle écrivait elle-même. Elle sollicitait l'avis de Jouvenel, qui, très occupé dans son superbe bureau du premier étage, ne montait que très, très rarement dans notre bureau sans art et sans tapis. Il se contentait de téléphoner de loin en loin à Colette, le plus souvent pour dire « Je ne rentrerai pas dîner ». Sidi ne rentrera pas dîner, me disait alors Colette sans autre commentaire que « Allons dîner toutes les deux à l'escargot ». Il y eut ainsi beaucoup de dîners à l'escargot ou ailleurs, dans de bons et modestes restaurants de quartier. Sauf bien entendu les jours de théâtre. Ces jours-là, Pauline, la chère, la fidèle, l'intelligente Pauline, qui était alors une toute jeune et fraîche adolescente corrézienne, apportait à Colette dans un grand carton tout ce qu'il fallait pour s'habiller le soir. Elle n'oubliait jamais rien. Pour moi, je drapais ma modeste robe de velours noir dans une des immenses écharpes de rodier qui était alors à la mode, et Colette, ces jours-là, me disait, bannissant les derniers visiteurs de son bureau afin de procéder à un changement de costume, « Emmène-les jouer ». Parmi les visiteurs amis de ce temps-là, je citerai pêle-mêle le beau Robert Chassériau qui devait périr tragiquement, Marguerite Moreno, le mime Georges Vague qui venait d'échanger avec Colette des souvenirs de tournée, Henri Duvernois, dont l'esprit d'une finesse mélancolique n'a jamais été égalé. Francis Carco, Francis de Miomandre, Léopold Marchand, Tristan Bernard venaient aussi. C'était un homme adorable mais maniaque. Colette avait eu un jour la funeste idée de lui demander un compte. Il le lui apporta pour la plus grande consternation de la direction, car il ne s'y passait strictement rien. Ce qui se passa par contre nous conduisit, Colette et moi, à la limite de la démence. Car le compte était à peine agréé, à peine composé, que Tristan Bernard le réclama. Il voulait changer l'emplacement d'une virgule. Un cycliste le lui porta, et il habitait loin, et le ramena corrigé. 2 heures après, Tristan téléphona. Ce n'était plus la virgule qu'il chiffonnait, c'était un point. Le lendemain, le compte repartit. Cela dura une dizaine de jours. Chaque jour, Tristan modifiait sa ponctuation. Un soir enfin, il arriva placide pour une ultime correction et Colette, le mouchoir aux yeux, lui dit « Oh, mon pauvre Tristan, il est trop tard ». Il était trop tard, en effet. Sur les ailes des éditions de province, le compte venait de s'envoler. « Quel ennui, dit Tristan. Enfin, ça n'a pas d'importance, vous en apportez un autre ». C'est après plusieurs heures de ce travail de minutie et de réclusion, et après un très hâtif repas, la pire des punitions pour elle, que Colette partait pour le théâtre.
Colette, je l'ai vue encore 2 ans presque chaque soir au théâtre où elle assumait la critique du journal quand je tenais celle de comédien. Une Colette exacte, attentive, jamais rebutée, merveilleusement compétente quant au talent des acteurs. Elle cernait leur silhouette d'un trait inoubliable. On connaît sa définition de l'acteur des variétés, Paulet, comédien de poids, léger comme une montgolfière. et ce trait sur Marcel Vallée, truculent interprète de Shakespeare, Vallée et son beau petit œil d'éléphant. Après cela, on ne pouvait plus imaginer ces acteurs autrement qu'elle nous les avait fait voir.
Au matin, on appréciait énormément sa critique dramatique, ce qui ne laissait pas que de me surprendre un peu. « Je vais te dire, m'expliqua un jour Colette, c'est court. » Sur ces entrefaites, l'affaire Landru passa en jugement. Colette fut chargée des comptes rendus d'audience, travail auquel rien ne la préparait. Je crois que la série d'articles qu'elle donna alors demeure un modèle dans ce genre difficile. Car, en sus des développements du procès, elle se donna la peine d'observer l'accusé. Elle repéra dans un visage opaque à force d'abstraction le brillant, la rondeur et l'inhumanité d'un regard d'oiseau. Et que, par on ne sait quelle connivence avec le règne animal, il échappait à la morale humaine. Quand il fut condamné, elle s'inquiéta des réactions de ce personnage étrange dont il semble que la seule passion ait été l'avarice. L'avocat de Landru, qui était, si je ne me trompe, maître de Moreau Giafferi, les lui rapporta. Il était allé voir Landru dans sa cellule et il lui avait demandé on ne sait quel suprême aveu. Landru l'avait regardé de son œil de mésange et dit simplement « C'est mon bagage ».
Un jour, j'ai vu Colette s'asseoir à nos côtés sur les bancs réservés à la presse, à la cour d'assises. On jugeait un jeune dévoyé que l'amour excessif d'une mère avait, oh, sans le vouloir bien sûr, jeté dans les plus mauvais chemins. Tout l'intérêt de la cause résidait dans le personnage de cette jeune femme charmante et désespérée. Avec quelle lucide passion Colette étudia cette mère. C'était l'époque où une fillette surnommée Belle Gazou gazouillait dans la vie de Colette. Je me souviens de ce compte-rendu. Tout y était, tout, jusqu'au moindre détail, l'atmosphère, l'ambiance. Et ce que nous appelons d'un mot, triste comme la chose qu'il désigne, l'information. J'avais eu la curiosité de regarder les notes d'audience qu'elle avait prises. Oh, c'était court. Quatre courtes lignes pour définir une couleur, une lumière, une attitude et un argument. C'était tout. C'était tout Colette.
Mais Colette ne serait pas tout à fait Colette sans trois personnages qui préparent depuis 30 ans sa gloire littéraire. Chéri, Léa et Sido. Philippe Aya et Valentine Tessier ont accepté d'évoquer pour nous l'ombre de Léa.
Ah, Madame de Longval, Léa, héroïne de deux chefs-d'œuvre, Chéri et la fin de Chéri. Je suis bien content de parler 5 minutes avec vous, parce que, permettez-moi de vous en faire la déclaration, de toutes les créatures de Colette, vous êtes encore celle que j'aime le plus. Colette elle-même, mise à part, bien entendu, qui est souvent sa propre héroïne. Car Léa n'est pas Colette. D'ailleurs, elle n'avait pas votre âge quand elle composa votre histoire. « J'agençais, écrit-elle quelque part, j'agençais, prémonitoire, une Léa. Mais vous étiez si vivante qu'on a cru la reconnaître. »
On s'est trompé. D'abord, moi, je n'ai jamais su écrire. Je veux dire, bien écrire, caresser le papier, la phrase, chercher l'épithète rare. Enfin, comment dire ?
Quoi donc ?
Eh bien, il y a une grande distance entre l'état d'écrivain et l'état de Léa de Longval. Je n'étais que ce que j'étais, moi.
Hey, Léa, Colette ne vous avait faite demi-mondaine que pour vous rendre plus libre de vos mœurs et de votre personne, pour mieux vous livrer à vos sentiments, comme Araminte est veuve et Hermione princesse.
Oh, maintenant, de vos jours, je serai une honnête femme. D'abord, le demi-monde a disparu. C'était une classe sociale, vous savez.
Je me souviens.
Allons donc. Vous en avez vu que la faim, les miettes, les restes. Dans l'entre-guerre, il subsistait encore quelques fantômes, quelques spécimens attardés, isolés et désorganisés. C'était déjà plus ça. Après cette guerre-ci, moi qui m'y connais, je n'ai rien retrouvé du tout. Enfin, rien qui vaille la peine de s'appeler le demi-monde.
Et qu'est-ce qu'il a donc remplacé ?
Mais le monde ! Le monde tout court ! Les femmes du monde n'ont plus de mœurs. Elles sont libérées. C'est bien le mot, n'est-ce pas? Pour commencer, les Léas d'à présent sont mariées. Mariées dans la finance, la haute industrie, l'aristocratie. Et elles sont reçues avec leurs gigolos dans les coteries les plus fermées. Seulement, elles sont regardantes. Ah, Seigneur! Elles ne paient ces pauvres petits la moitié du temps qu'en monnaie de singe. Elles se contentent de les exhiber dans le général, de les présenter à droite et à gauche, pour les lancer, disent-elles. Et c'est tout. À peine un peu d'argent de poche. Le temps des grosses voitures négligemment offertes en cadeau d'anniversaire. Le temps des portes-cigarettes en platine, glissées dans la poche du veston pendant le sommeil. Ce temps-là est bien fini. Votre époque est dégénérée. C'est ce qui arrive quand on laisse les amateurs prendre le dessus. Mais oui, ces femmes ne possédant leur fortune que pour raison sociale, maritale ou héréditaire, et non comme nous, pour raison de beauté, elles ne sont même plus agréables à regarder. Des laidrons ou des maritornes. Et un manque de classe avec ça. Leurs maris eux-mêmes ne les sortent plus.
Le changement, alors, c'est que l'amour a perdu pour Léa son caractère de provocation, de défi à la société. Léa doit se sentir moins menacée. Elle a gagné de nos jours un sentiment de sécurité.
Elle a gagné surtout 10 ans de mieux. Les femmes désarment bien plus tard. De ce point de vue-là, votre époque est en progrès. Est-ce que vous vous imaginez que, de vos jours, une femme de 49 ans et demi qui se regarde dans son miroir y voit une vieille femme? Elle y voit une femme épanouie, pour qui la partie n'est pas du tout perdue. Cette femme-là défendra son amour. Et pour commencer, elle sera une femme qui se défend. Me rappelez-vous ce que j'étais devenue 7 ou 8 ans après ma rupture avec Chéri, la guerre de 14 ayant passé?
Oui, Chéri avait rêvé de vous dans les nuits du front. Et il se retrouve à Paris, écœuré de son oisiveté, des malaises de l'époque, des combines de la paix. Il s'aperçoit qu'il n'a jamais quitté dans son cœur la femme de ses 20 ans. Vous avez vendu le petit hôtel de l'avenue Bugeaud, et Chéri se dirige vers votre nouvel appartement, et il sonne à votre porte, inguérissable de vous.
Parfaitement. Eh bien, rappelez-vous dans quel état il me retrouve. Ah, Colette ne me ménage pas. Elle me montre telle que je suis. Lisez, je vais vous voir ouvrir la fin de Chéri.
Elle n'était pas monstrueuse, mais vaste, et chargée d'un plantureux développement de toutes les parties de son corps. Ses bras, comme de rondes cuisses, s'écartaient de ses hanches, soulevées près de l'aisselle par leur épaisseur charnue. La jupe unie, la longue veste impersonnelle entr'ouverte sur du linge à jabot, annonçait l'abdication, la rétraction normale de la féminité et une sorte de dignité sans sexe. Léa se tenait debout entre Chéri et la fenêtre, et sa masse consistante, presque cubique, ne le consterna point d'abord. Lorsqu'elle bougea pour atteindre un siège, elle dévoila ses traits, et il se mit à l'implorer mentalement comme il eût imploré un fou muni d'armes. Rouge, d'un rouge un peu blêt, elle dédaignait à présent la poudre et riait d'une bouche pleine d'or. Une saine vieille femme, en somme, à bajoux larges et à menton doublé, capable de porter son fardeau de chair, libre des thèses et d'entraves.
Hé, donc, petit, d'où sors-tu comme ça? Tu n'as pas bien bonne mine, on dirait.
Et Chéri vous reconnaît alors, Léa. Il vous reconnaît à ce son de votre voix et à votre regard d'un bleu de fleur bleue.
De vos jours, il m'aurait reconnue tout entière. Avec les moyens dont on dispose à présent, avec les mœurs nouvelles, je ne serais pas devenue pachydermique. Il m'aurait retrouvée. Et nous aurions eu encore plusieurs années d'amour.
Il n'aurait pas eu besoin d'aller rechercher votre ombre à tâtons, les yeux perdus, à travers les radotages de la copine, sur les portraits de vous épinglés au mur de la triste demeure de ce vieux témoin. Et devant l'image la plus fidèle de la Léa des beaux jours, il n'aurait pas appuyé son revolver sur son oreille.
Il n'aurait pas tiré.
Mais le chef-d'œuvre de Colette aurait été moins accompli. Ne regrettez pas trop, Léa. Cet évanouissement de Chéri dans le suicide, cette disparition de vous-même dans les épaisseurs d'une autre femme sont nécessaires à votre gloire.
Ma gloire ? N'est-ce pas un bien grand mot ?
Non. Éléonore de Benjamin Constant, la femme de 30 ans de Balzac, Madame de Rênal de Stendhal, vous avez ouvert la route. Mais vous, d'un pas en apparence plus frivole, vous êtes allé aussi loin qu'elle, et dans un certain sens plus loin. Votre gloire, c'est d'avoir osé revendiquer que dans l'amour d'une femme mûre, la nuance maternelle fut saine et non pas trouble. C'est d'avoir osé nommer chérie mon nourrisson méchant. C'est d'avoir osé dire qu'en chérissant un amant plus jeune, une femme le porte comme elle porterait un enfant. Pour cela, pour bien d'autres raisons encore, vous ne mourrez pas. Adieu, Léa. Que votre survie vous soit légère.
Au revoir donc, Léa. Et bonsoir, chérie. Je veux dire, bonsoir Pierre de Guingamp, qui fut le premier chéri au théâtre.
Je me souviens d'une manière mais fulgurante du jour où j'ai découvert Colette auteur dramatique. En 1919, à une répétition générale, à la Comédie des Champs-Élysées, dans un couloir, pendant l'entracte, je me trouve brusquement devant Colette. Sans me laisser le temps de lui dire bonjour, elle s'écrie joyeusement « Mais mon petit Pierre, mais c'est vous, chérie !» Et pour me prouver la vérité de cette affirmation, sans plus attendre, au milieu de la foule, Colette, s'asseyant sur la première marche de l'escalier, conduisant au balcon, ouvre sa serviette, en tire un manuscrit et commence à me lire la première scène de chérie. Malheureusement, la sonnerie de l'entracte interrompait cette lecture et ces répliques qui entraient dans mes oreilles comme une musique de fête et d'espérance. Je passe la période d'espoir et de désespoir qui a suivi cette aventure. Des échos de plus en plus nombreux paraissaient « Qui sera chéri ? Sera-ce Pierre de Guingamp, un tel, X et YZ ?» Follement inquiet, je téléphone à Colette, le rôle m'ayant été promis. Je lui demande de le confirmer. « Mais vous êtes stupide, tout cela n'a aucune importance et faites encore de la réclame à la pièce. » fut sa réponse. Ben « Oui, mais enfin, j'ai peur de perdre mes petits galons de laine, gagnés dans la bataille théâtrale, si je ne dois pas créer ce fameux rôle. » Mais vous connaissez les difficultés de distribution, je ne fais pas ce que je veux avec les directeurs qui redoutent l'audace du personnage. Ne vous tourmentez pas, c'est vous qui serez chéri. Soyons francs, hélas, j'ai bien failli ne pas l'être. Peu après, rencontrant Léopold Marchand, son collaborateur me déclare, mon petit Pierre, voici où nous en sommes. Vous êtes le premier sur la liste, mais il y a une liste. C'était tellement exact que finalement, la pièce entrait en répétition, et je n'étais pas de la distribution. Ma peine fut sévère. Parti en Belgique pour créer aux côtés du célèbre sociétaire de la Comédie française Charles Le Bargy un rôle dans sa première pièce, j'apprends tout à coup là-bas, au théâtre, les nouvelles vont très vite, que le camarade de grand talent qui m'avait été préféré avait renoncé au rôle et obtenu sa liberté. Et je reçois comme une balle le télégramme suivant. Rentrez immédiatement pour pourparler chérie. Amitié, Colette. Aussitôt libre, je prends le premier train, cours à Paris au rendez-vous fixé. Déjà chérie, avant la lettre, j'avais préparé une entrée hargneuse et vindicative. Comme à la générale des Champs-Élysées, Colette me stoppe de ses mots triomphants. « Eh bien, mon petit Pierrot, vous voyez bien que c'est vous, chérie. » Je n'ajouterai rien sur chérie. Nous sommes en 1955 et j'estime que c'est à présent à mon jeune camarade Jean Marais, qui n'a pas repris mais recréé le rôle à son tour, que doit revenir cet honneur.
J'ai eu la chance d'être l'ami de Colette et qu'elle aime mon chien Moulouk. Toujours dans la radio ou dans les livres qui volaient de sa chambre du Palais Royal à la mienne, parce que j'habitais le Palais Royal aussi, comme les feuilles de nos arbres du jardin, j'ai trouvé les signes de sa gentillesse exquise. Lorsqu'elle m'a demandé de jouer chérie, je ne me voyais pas dans le rôle. Je me défendais en lui disant que elle ne m'y voyait pas non plus et qu'elle me le demandait à cause de sa merveilleux voisinage. J'ai accepté ce rôle à cause de mon respect et de ma reconnaissance pour ma voisine. Je me suis lancé à l'eau, la tête première, et j'ai tâché de mériter l'estime de Colette. Les ondes qu'elle projetait autour d'elle m'ont sûrement soutenu et aidé. Son œil aigu m'intimidait et me rassurait à la fois. Je souhaitais pour elle de devenir plus grand que je n'étais, afin de lui offrir un chéri digne de son livre et d'elle. Et elle eut l'extrême gentillesse de me dire que si elle avait écrit « chéri » de nos jours, il me ressemblerait. Sa générosité, sa bonté, sa patience resteront pour moi un exemple qui m'obligera toujours à chercher mon estime afin d'être digne de sa grande amitié.
L'ombre tutélaire de Sido se dresse maintenant, et c'est une nouvelle Colette qui naît, comme en témoignent Thierry Monnier et Françoise Roset.
Je ne vous ai jamais vue, madame, et pourtant je vous connais. Vous ressemblez aux héroïnes de Colette, et pourtant vous êtes différente. Vous n'êtes pas Julie de Carnayan, vous n'êtes pas Léa, vous ne portez pas sur votre visage, pardonnez-moi, la marque de leurs amours et de leurs fièvres. Vos paupières ne sont pas battues par le plaisir, ni par l'angoisse, ni par l'insomnie. On ne voit pas jouer sur votre front les lumières et les ombres de la grande ville nocturne. Qui êtes-vous ?
Devinez.
Il y a toute l'expérience humaine en vous, et pourtant, comment dirais-je, une pureté. Non, ce n'est pas exactement cela, une sécurité plutôt, une sérénité, une tranquillité presque paysanne. Oui, c'est cela, une sagesse. Quel de ces livres habitez-vous donc ?
Je les habite tous.
Je donne ma langue à tous les chats de Colette.
Voyons, vous avez tout à l'heure de façon flatteuse pour moi parlé de sagesse. La sagesse...
La sagesse de Sido. Vous êtes Sido.
Je suis Sido. Je suis sa mère.
Comment ne vous avais-je pas reconnu ? Sido, vous êtes en effet la mère de Colette, et par là même la parente, par une étroite alliance de tous ses personnages, et plus encore, le fond même de son œuvre. Le paysage sur lequel elle se dessine, le port d'attache dont cette vagabonde ne s'éloigne jamais que pour y revenir.
Je vous l'ai dit, présente même dans l'absence. N'est-ce pas le destin, n'est-ce pas l'angoisse, n'est-ce pas la revanche de toutes les mères ?
La mère, les psychanalystes nous l'ont sinon appris, du moins rappelé, c'est le point de départ de toute vie. C'est le premier visage qui s'inscrit dans l'âme de l'enfant, si profondément gravé que tous les autres visages ne le couvriront que d'ombres passagères ou viendront se confondre avec lui. Pourtant, Madame Sido, n'exagérez pas votre rôle. L'enfant n'est pas docile. Naître de sa mère, c'est aussi se détacher d'elle. Tous les enfants quittent leur mère. Colette vous a quitté.
Elle ne m'a jamais quitté, que pour me revenir. Elle a toujours su qu'elle me reviendrait, voyons, cher monsieur. Ma fille a-t-elle jamais renié son enfance bourguignonne, la maison, le verger, les chambres fraîches, l'odeur des fruits de l'été? N'en a-t-elle pas gardé jusque dans les aventureux itinéraires sentimentaux de ses héroïnes, jusque dans la fièvre des nuits parisiennes, l'obsédante et parfois poignante nostalgie?
Je le veux bien, mais...
Laissez-moi parler, vous parlez tout le temps. Une mère ne connaît-elle pas mieux sa fille que ne la connaît un quelconque critique?
Les mères connaissent-elles si bien leurs enfants? N'y a-t-il pas dans tout enfant une part défendue contre l'indiscrétion maternelle?
Il y a surtout dans Colette, dans tous les personnages féminins qui sont les reflets de Colette, une part défendue contre toutes les amitiés, contre toutes les amours, contre toutes les tentations et contre toutes les blessures de la vie. Et c'est chez elle le secret de la force, le principe de la santé, de l'équilibre, le refuge. Et cette part, c'est la part de la Bourgogne natale et de la maison de Sido, la part des étés lumineux de l'enfance, la part de la mère, ma part.
Le voilà bien, l'instinct de possession des mères.
Vous ne me croyez pas? Vous croirez-vous vous-même? J'ai là un petit livre consacré à Colette. L'avez-vous oublié? Il est signé de vous. Voici ce que j'y lis. Il semble que Claudine, il semble que René, il semble que Colette, si loin qu'elle s'aventure dans le Paris de pierre et de nuit, d'hommes et de femmes, dans l'univers irréel et cruel que peuple des illusions et des désillusions également épuisantes, garde comme le navigateur, par un fil invisible, l'attachement au pays natal. Et ce pays natal, c'est sans doute le pays où Claudine, où René, où Colette sont nées. ce pays par lequel Colette reste si puissamment prisonnière de son enfance, ce pays qui est son bien, plus que son bien, sa personne, un asile inviolable dont elle ne donne la clé à nul autre et qu'elle ne partage pas.
Vous êtes bien sa mère. La plus profonde joie d'une mère est de savoir qu'elle possède de son enfant quelque chose qu'aucun mari, aucun amant ne possédera jamais.
N'est-ce pas vers moi seule, qu'en fin de compte elle est revenue? Voyez-vous, cher monsieur, la part de la mère dans l'enfant, ce ne sont pas seulement les premières années, ce sont aussi les dernières. Colette a retrouvé en vieillissant cette paix maternelle, cette paix dont j'avais, moi-même vieillissante, donné l'image à son enfance. Vous disiez tout à l'heure que l'enfant se sépare de la mère, et vous aviez raison. Mais il revient à sa mère pour vieillir comme elle. Ainsi, de nouveau, il la retrouve. J'avais appris à Colette à vieillir, et sa vieillesse a été la mienne. Je me suis trouvé là à la fin, comme j'avais été là au commencement. La vie et l'œuvre de Colette s'ouvrent et se ferment sur Sido.
Et voici, pour notre joie et malgré notre émotion, Colette, telle que notre cœur en a conservé l'image sonore.
Levée au jour, parfois devançant le jour, ma mère accordait aux points cardinaux, à leurs dons comme à leurs méfaits, une importance singulière. C'est à cause d'elle, par tendresse invétérée, que dès le matin et du fond de mon lit, je demande « D'où vient le vent ?» À quoi on me répond « Il fait bien joli, c'est plein de passereaux dans le palais royal, il fait vilain, tant de saisons, quoi. » Il me faut maintenant chercher la réponse en moi-même, guetter la course du nuage, le ronflement marin de la cheminée, à moins que je ne me replie frileusement devant la bise d'Est, devant l'ennemi, le beau froid sec et son cousin du Nord. Ainsi faisait ma mère, qui coiffait de cornets en papier toutes les petites créatures végétales assaillies par la lune rousse. Il va geler, la chatte danse, disait-elle. Son ouïe qu'elle garda fine l'informait aussi. Elle captait des avertissements éoliens. « Écoute, Surmoutier, me disait-elle. » Elle levait l'index, se tenait debout entre les hortensias, la pompe et le massif de rosiers. Là, elle centralisait les enseignements de l'Ouest par-dessus la clôture la plus basse. « Tu entends ? Rentre le fauteuil, rentre ton livre, ton chapeau. Il pleut, Surmoutier. Il pleuvra ici dans 2 ou 3 minutes seulement. » Je tendais mes oreilles, Surmoutier. De l'horizon venait un bruit d'égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang criblé de pluie. Et j'attendais quelques instants que les douces gouttes d'une averse d'été sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l'infaillibilité de celle qu'un seul être au monde, mon père, nommait Sido.
J'étais assuré, n'est-ce pas, Marcel Jouandeau, de combler votre attente.
Il n'est pas pour moi de plus belle musique au monde que la voix humaine. Et j'ai observé qu'il m'est arrivé toujours d'entendre la voix de ceux que je devais aimer avant de les voir. Eh bien, Colette a cela de commun, dans mon souvenir, avec les êtres que j'ai aimés. Je l'ai entendu parler avant de connaître son visage. Ce devait être en 1950, je venais la visiter pour la première fois chez elle, et nous nous attardions, M. Goudquette, un ami et moi, dans la bibliothèque voisine de la chambre où elle était couchée déjà malade. Impatiente de nous voir, bientôt elle appelait. « Maurice ! Maurice ! Maurice !» 3 fois, crescendo. Il y avait dans cette voix une fraîcheur, une passion frémissante, déchirante, une telle tendresse, tant de jeunesse encore, je ne sais quoi de printanier, comme le passage d'un zéphyr un peu rude. Sur un arbre en fleurs, et cette voix décelait une présence imminente, si pathétique, que je l'entends toujours, comme si nous allions la revoir.
Je ne sais pourquoi la musique du nom de Sido évoque toujours le nom presque magique pour un fervent de Colette, de la treille muscate. Cher André Billy, Colette ne vous a-t-elle jamais fait de confidence sur sa maison de la Côte d'Azur?
Colette ne faisait pas de confidence. Que de fois, lorsqu'elle vivait, n'ai-je pas eu la pensée de lui demander « Colette, de tous les logis que vous avez habités, quel est celui que vous avez préféré ?» Je ne l'ai pas osé. Il me semblait que j'ai été forcé en elle un sentiment trop intime. M'aurait-elle répondu « La maison de Claudine ?» Ou la treille muscate, la maison de Claudine. Je ne l'ai vue que du dehors. Elle était vide, tous volets ouverts, avec une plaque rappelant que Colette y est née. Colette n'y est jamais revenue. Non, ça ne doit pas être la maison qu'elle préférait. Je suis entré la treille muscate un jour d'été, vers 1930. On s'éloignait de Saint-Tropez par une route blanche, bordée de cabanons et de grilladous. On gagnait les vignes en pente sur un coteau. On apercevait de l'autre côté du golfe les palmiers et la petite plage de Sainte-Maxime. Et tout à coup, enfoui dans le feuillage, un toit rouge, des murs blancs, une petite barrière en bois qu'encadraient deux piliers de maçonnerie. C'était la maison de Colette. C'était la treille muscate. La pièce où elle se tenait pendant la journée était un grand cube de ciment construit en retrait. De beaux meubles bretons remplis de livres, une grande table de travail, un immense divan, une moustiquaire, des faïences qui faisaient de belles taches vertes sur les murs de lait. Elle nous fit voir son potager au fond du jardin à la plage, sa plage. Elle s'y baignait deux fois par jour. Qu'elle paraissait heureuse ce jour-là. Oui, quelque chose me dit que de toutes les demeures où elle a vécu, c'est la treille muscate qu'elle préférait. Qui sait pourtant, elle était si discrète, Colette, si profonde et si multiple en sa simplicité toute instinctive. Je tiens qu'aucune femme n'a jamais donné aux malheureux hommes, ces balourds, une si troublante sensation d'inconnaissable. Et c'est pourquoi les femmes l'ont beaucoup aimée. Elle a été vraiment leur sœur à toutes, irremplaçable, unique.
Mais comment parler des maisons de Colette sans évoquer le palais royal? Votre royaume aujourd'hui, Jean Cocteau.
Ce palais royal, dont les habitants, lorsqu'ils gravissent les quelques marches conduisant rue de Richelieu, disent « Je monte à Paris », s'était choisi Madame Colette comme présidente et après sa mort, reporte sur moi son besoin d'être autonome et de se serrer autour d'un chef. Au centre du village, l'angle des rues Montpensier où je demeure et de Beaujolais où demeurait Colette abrite le restaurant Véfour que M. Olivier dirige et au bar duquel, à l'heure où tonnait jadis le petit canon du jardin soulevant une rafale soyeuse de pigeons, se retrouvent quelques aborigènes heureux de trinquer ensemble. À peine Mme Colette formait-elle le vœu de quitter sa chaise longue que, sur un signe de Raymond Oliver, deux robustes gars de sauce montaient une sorte de chaise à porteur et redescendaient du deuxième étage avec la présidente, soit pour qu'elle s'installât dans sa voiture, soit à une table portant son nom et ajoutant au lustre d'un lieu dont nombre de gloires françaises, de Fragonard à Balzac, furent les hôtes. Contrairement aux dictateurs, qui sont presque toujours végétariens et mangent de l'homme, Madame Colette aimait la belle cuisine et son style le prouve. Le style de Madame Colette est capiteux. Il économise le sel, évite la graisse, use de poivre, d'ail, d'herbes diverses et ne craint pas de faire mordre à même un de ses petits piments rouges, un de ses petits bonnets de gnome qui en porte la bouche.
Et puisque nous sommes rue de Beaujolais, entrons au Véfour. Cher Oliver, cher voisin de Colette gourmande, avez-vous des souvenirs d'amitié et de gastronomie à nous conter?
Nous étions voisins. Et pourtant, elle m'envoyait de charmants petits billets bleus, me demandait un léger service ou me réclamait près d'elle. Nous parlions de tout et de cuisine. Oui, elle me disait ses goûts. J'essayais parfois de retrouver, d'après sa description, telle confiture de Sido. J'écrivais à Alexandre Dumaine pour qu'il nous expédiât des cornuelles. Je perfectionnais un plat pour qu'elle puisse le manger sans danger. Assis à côté du radeau, sous le fanal bleu. J'écoutais Colette me dire ses joies gastronomiques. Elle s'accordait à trouver deux sommets à la gastronomie, le Coulibiac et le Lièvre à la Royale. Je crois que ce n'était pas tout à fait sincère en ce qui concerne le Lièvre à la Royale. Elle me le concédait, en quelque sorte. Le Lièvre à la Royale, c'était son tribut à l'amitié. Pour elle, elle en parlait cependant très joliment. « Matin, me disait-elle, 20 gousses d'ail, pas une de moins. »« Oui, mon cher Oliver, pas une de moins. » J'entrais dans le jeu. Je ne lui avouais jamais ne pas mettre d'ail dans mon Lièvre à la Royale, ou si peu. Ce n'est que ces jours derniers, en lisant « Lettres à un gourmet », que je trouvais la recette poitevine de ce Lièvre à la Royale où 20 gousses d'ail voisinent à 40 gousses d'échalotes. L'auteur prétend que les unes et les autres se neutralisent. Ce que je croyais être un jeu était bien fondé, mais pour moi c'était un jeu tout de même. Oui, elle aimait les animaux, mais elle ne s'embarrassait pas de sensiblerie, qu'il s'agisse d'ortolans, de bec figue ou d'alouette. Pour elle, j'ai désossé ortolans, cailles, grives. J'ai confectionné des tourtes, car elle aimait tous les pâtés, sous toutes leurs formes. Il est probable que le pâté de grive avait sa faveur, à cause de cette amertume qu'ont ces oiseaux lorsqu'ils se sont gavés de graines de sureau. J'exagérais, pour tout dire, pour elle, cette amertume. J'en accentuais la note par le nombre de fois qui, ces fois, recèlent tout l'amer des baies sauvages. Et puis, j'ai fait des chicken pie, le ragoût d'oie, les consommés de volaille, clairs et légers, les poissons en papillote, la lamproie et la loze. Et ce vin de Château d'Yquem ou de Château Guiraud, dont j'avais toujours pour elle une vieille bouteille des années 69 ou 93. Peut-être un peu teinté de roux, mais si merveilleusement conservé. Elle aimait ces vins de Sauternes, dont elle avait gardé le souvenir. Son père lui en faisait boire alors qu'elle était toute petite fille. Et c'est moi qui, sur la fin de sa vie, lui en ai redonné le goût. Elle m'offrait à moi toujours du champagne. Mais je sais très bien que des amis très chers lui en envoyaient et elle en aimait beaucoup la mousse. Mais en réalité, c'était le vin de mon pays qu'elle préférait.
Mais le Palais Royal, c'est aussi, c'est surtout pour Colette, une chambre d'où elle regarde Paris de sa fenêtre, et d'où, installée sous le fanal bleu, elle travaille. Jean Cocteau a peint pour nous ce portrait saisi sur le vif.
Un petit pont de bois lui servait d'écritoire. Sous ce pont, elle paraissait couler, immobile, comme certains fleuves. Le courant était fait de linge, de châle et de la houle des jambes qu'elle ne savait où mettre pour en moins souffrir. Pendant des jours et des jours, alors que j'avais vu jadis le buste combatif de la comtesse de Noailles lutter contre la mort et jaillir de ses draps pour essayer de la vaincre, j'ai vu Madame Colette couler doucement vers la sienne, sous ce petit pont sur lequel s'entassait, comme sur le Rialto ou sur l'Arche de Florence, un gracieux désordre. Fruits, fleurs, bouquets de stylographes et montagnes de paperasse où elle se perdait, cherchant en vain ce qu'elle voulait nous montrer, appelant son mari au secours et en brouillant les feuilles bleues sous la lampe bleue qui faisait dire au spectre du Palais Royal « Disparaissons, Colette travaille. »
Oui, Madame Colette travaille. Travaille, travaille, c'est un mot qui n'a cessé de résonner à ses oreilles. Et romans, nouvelles, théâtre, critique, de la même plume riche et personnelle, elle a marqué tous les arts littéraires des formes de son talent. Le cinéma lui-même, n'est-ce pas, Philippe de Rothschild?
Colette a fait les dialogues de La Codame, le film que j'ai fait avec Marc Allégret, en 1932. Elle habitait le Claridge, aux Champs-Élysées, une petite chambre tout en haut, quatrième étage. Elle était couchée dans son lit, le dos à la fenêtre, ignorant ce qui se passait dans la rue, entourée de cette océan de papier bleu qu'elle avait toujours autour d'elle, sa petite table sur ses genoux, sa couverture de fourrure grise. Tous les jours, pendant 20 jours, j'allais la retrouver et nous discutions et elle écrivait. Colette ne suivait jamais l'histoire.
Elle ne voulait pas connaître l'histoire. Elle détachait chaque scène et prenait chaque personnage, entrait dans la peau du personnage et elle travaillait chaque scène totalement isolément du reste de l'histoire. Et c'était ainsi qu'elle me disait, alors dis-moi, ils entrent par la porte, qu'est-ce qu'ils font? Ils se couchent dans le blé, elle est dans son bateau, elle va traverser le lac, elle sort, elle rentre, elle raconte, raconte, dis-moi rien. Bah, écoute, tout de même, tu es pas muet, raconte un peu, raconte. Et finalement, petit à petit, je lui racontais l'histoire, et petit à petit, c'est ainsi qu'elle a écrit ce merveilleux dialogue de la Côte-d'Âme, qui est resté inédit. J'ai heureusement pu, grâce à Maurice Goodkett, retrouver un tout petit élément de ce texte et la chanson qui est qui termine la Côte-d'Âme, qui termine le film. Voici le poème de Colette. Sur l'autre rive, je chante, j'attends. Le lac balance mon rêve, ma barque, qu'apportera le soir l'aurore. Là-bas s'allument des feux, des fêtes. Ici, dans l'ombre, fendant l'eau verte, ma rame ruisselle de gouttes de lune. Vers l'autre rive, les feux, les fêtes, la fille blonde l'ont emmené. Le lac, miroir de nos visages aux bouches jointes, me mire seul, bouche qui chante, yeux qui ruissellent, des pleurs, non, non, des gouttes de lune.
Merci Philippe de Rothschild pour ce poème de Colette. Hélène Jourdan-Morange, maintenant je vous prie, évoquez ma Colette musicienne.
J'étais musicienne avant tout, me disait-elle quelque temps avant sa mort. À 2 ans, je savais mes notes, apprises avec Sido en même temps que l'alphabet. Et à 4 ans, imitant mes frères très musiciens aussi, je tapotais sur le piano, sachant déjà lire mon petit morceau dans la méthode Carpentier. Ma mère, voyant mes dons, demande à Madame Mannheimer, la femme du chef de gare de Saint-Sauveur, de me donner des leçons de piano. Ce furent les seules leçons reçues par Colette. Colette, jeune mariée, se lia d'amitié avec Gabriel Fauré. Elle le rencontrait chaque vendredi chez Madame de Saint-Marceau, salon où se réunissaient les artistes qui devaient plus tard devenir célèbres. Fauré, Debussy, Ravel, Messager. Debussy venait à tous les vendredis. Il intimidait terriblement Colette. Elle n'osait lui parler. Un soir pourtant, Debussy, agacé, ne retrouvait pas un thème de Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Alors, la jeune Colette, toute timide, s'approcha du piano et joua le motif tant cherché. Étonnement de Debussy, qui n'avait jamais remarqué la jeune femme. Et Colette note dans mes apprentissages, je crois. Son œil hanté s'humanisa, sembla m'apercevoir pour la première fois. « bonne mémoire !» s'écrit-il. Mais ému, j'entendais « bonjour, bonjour, je viens de faire votre connaissance. » Elle avait des idées bien à elle et n'aimait pas que ses mouvements ne soient pas respectés. Un jour, elle me dit, il y a 3 ou 4 ans, je pense, « Tu sais, Mamoun, ton ami Munch, c'est un très grand chef d'orchestre, mais il joue trop vite la marche au supplice de Berlioz. » Et de mémoire, elle me chanta le tempo de la marche. « Amène-moi ce cher Munch, que je lui donne mon mouvement. » Munch, très admirateur de Colette, accourut à son appel, et voici à peu près ce que j'entendis. « Mon cher ami et grand chef, croyez-moi, c'est trop vite votre marche au supplice. Il y faut tout le poids des hommes accablés. » Ici, Colette chantonne le début comme elle le conçoit, scandant fortement le rythme lourd du thème en imitant le timbre des bois et des cuivres de l'orchestre. Et Munch, comme un petit garçon ébloui et modeste, répondit « C'est entendu, Madame Colette. Vous verrez, la prochaine fois, ce sera mieux. » C'est aussi chez Madame de Saint-Marceau que Colette connut Ravel. Mais malgré l'attirance qu'elle avait pour sa musique, l'aspect un peu dandy du musicien avait nui à leur camaraderie. Colette, en effet, était d'une nature si opposée à celle de Ravel qu'elle n'avait pas éprouvé le besoin de le mieux connaître. La vitalité, la spontanéité bousculante de Colette devait effaroucher le jeune Basque, très timide, encore trop près des poètes hermétiques pour goûter le naturel savoureux de l'enfant campagnarde. Plus tard, la musique devait pourtant les réunir. Colette avait écrit pour sa fille de 7 ans un ballet féerie, et elle ne savait à qui demander la musique. Quand Roucher, directeur de l'opéra, lui propose à Ravel, elle délira d'enthousiasme. Ravel accepta le poème féerique. Il contentait son penchant vers le merveilleux, son amour des bêtes et sa pudeur envers les hommes. Le rayonnement poétique de Colette provoqua le miracle de la féerie sonore. Miracle que Ravel prolongea à travers sa science par la fraîcheur éblouie de son regard d'enfant.
Il était une fois une nymphe qui dansait. Elle était inconnue. Colette passa, et le nom de Audrey Byrne devint célèbre sous le pseudonyme de Gigi. Ce soir, Audrey Byrne, grande vedette, se souvient d'une petite fille qui dansait à Monte-Carlo.
J'ai rencontré Madame Colette à Monte-Carlo quand nous tournons le film « Nous irons à Monte-Carlo » de Reventura. Elle m'a vue travaillant dans l'hôtel quand nous faisons une scène du film. Elle était là avec son mari, Monsieur Goudequette, et je crois qu'elle a demandé que on me présentait à elle. Et c'est comme ça que j'ai eu la grande joie de le voir. La chose que je me rappelle le mieux, c'est qu'elle m'a regardée. Elle n'a pas dit « Vous êtes Gigi » ou rien comme ça. Elle me souriait, elle m'a regardée. Et elle m'a donné beaucoup de courage. Elle m'a aussi donné un très beau souvenir que j'ai toujours avec moi. C'est une photo d'elle. Ça fait beaucoup d'émotions que je vous dis les mots qu'elle a écrits là-dessus. Elle a mis là-dessus pour Audrey Hepburn, trésor que j'ai trouvé sur une plage. Et j'ose vous dire ça parce que j'aimerais dire à vous et à tout ce qui m'entend que c'est moi qui a trouvé un trésor sur une plage à Monte-Carlo quand j'ai rencontré Colette.
Dernière image de la vie de Colette. L'Académie Goncourt se rendant chez sa présidente. À vous, Alexandre Arnoux, cet ultime souvenir.
Colette était à la fois la présidente et la lumière de l'Académie Goncourt. Quand j'y suis entré, elle y siégeait déjà depuis quelques années. Et certes, on l'entourait d'une vénération qui n'avait rien de solennel ni de compassé. J'aurais toujours dans l'oreille sa pointe savoureuse d'accent bourguignon, sa manière inimitable de prononcer les R, de les rouler avec je ne sais quoi de rauque, avec je ne sais quoi de doux. Personne n'a jamais sans doute prononcé un nom de plante d'une façon si évocatrice. On en respirait immédiatement l'odeur de feuilles vertes, de sève et de pollen. Nous allions la voir tous, en groupe, dans son logement du Palais Royal, avant nos réunions, avant l'assemblée du prix annuel. Nous allions écouter les conseils de sa subtile sagesse paysanne, que Paris n'avait jamais réussi ni à entamer ni à corrompre. Merveilleux souvenir. Les enfants, les oiseaux pépillés au Palais Royal, les arbres verdoyés, les murs même s'évanouissaient. Des perspectives s'étendaient
et s'ouvrait jusqu'au plus lointain horizon de bois, de prés et de collines. Nous avions fait près de Colette notre provision d'air pur, de gravité rustique, de bon sens malin, de vie profonde, d'antidote contre les vanités et les sophistications. Nous avions brûlé nos déchets, ventilé nos cœurs et nos âmes. Merveilleux souvenir en vérité. J'espère qu'il restera toujours un peu de Colette en chacun de nous et dans notre communauté.
Et que dites-vous de ce style inimitable, Maria Le Hardouin ?
Colette, pour moi, n'a pas de style. Colette, c'est la bouche collée à la source même, la prise directe, le chemin le plus court pour aller de l'être au cœur du réel. Le style, voyez-vous, au fond, est toujours pastichable. Seule la réalité ne l'est pas. C'est pourquoi on ne peut faire du Colette sans décalquer en quelque sorte ses phrases et avouer qu'on s'efforce de l'imiter. Comment parler après elle, par exemple, de la rose mourante et de notre sentiment devant cette agonie? Voici ce qu'elle dit. Tous, nous tressaillons lorsqu'une rose, en se défaisant dans une chambre tiède, abandonne un de ses pétales en conque, l'envoie voguer, reflété sur le marbre lisse. Le son de sa chute, très bas, distinct, et comme une syllabe du silence, il suffit à émouvoir un poète. Arrachement et incantation, au fond, si on y réfléchit, voilà pour Colette les différents modes d'approche du réel. Et ce pouvoir s'exerce dès le plus mince prétexte d'observation. Qu'elle procède en effet par simple analogie, et qu'elle nous parle du crapaud au gosier plein de perles, ou du bruit soyeux des ventailles ouverts et refermés d'un pigeon qui vole, ou encore du chuchotement humide d'une poignée de crevettes, ou bien de mes boudeurs qui effeuillent sous la verse et harnais de roses. Il nous semble y être nous-mêmes, nous le voyons. Elle est le doigt qui fait jaillir la réalité profonde de sa cosse.
Adieu donc, Colette. Adieu, chère voix. C'est maintenant la légende qui, par la bouche du poète, prend son essor. Achevons sur ce souvenir si proche. 1er octobre 1955, Jean Cocteau, devant l'Académie royale de Belgique, rend un solennel hommage à notre grande dame des lettres.
Madame Colette n'a pas besoin d'être blanchie parce qu'elle est blanche. Elle répugnait autant au noir que les impressionnistes à qui elle s'apparente tout en n'ayant jamais été mêlée à leur groupe et probablement aveugle et indifférente à leurs recherches. Elle est seule. Seule elle fut. Seule elle reste. Et je tiens à le souligner car, chose étrange, c'est en n'étant d'aucune école et en faisant l'école buissonnière qu'elle a rallié toutes les écoles. Cette Colette, la voilà vivante parmi nous, les pieds nus dans ses sandales, croquant un oignon de Saint-Tropez et criant « Maurice, Maurice, tu entends ce que j'en raconte? Qu'est-ce qu'il va encore inventer? Écoute, Maurice !» Et c'est pour que cette grande voix poursuive toute seule sa course dans vos cœurs que je vous demande pieusement l'autorisation de me taire.
Radiodiffusion française vous a présenté Colette et ses personnages avec, par ordre d'entrée en onde, Jean Cocteau, Marie Skerlin, Kurnonski, Georges Vague, Maurice Chevalier, André Billy, Germaine Beaumont, Pierre Cise, Philippe Heria, Pierre de Guingamp, Jean Marais, Thierry Monnier, Marcel Jouandeau, Raymond Oliver, Philippe de Rothschild, Hélène Jourdan-Morange, Audrey Hepburn, Maria Le Hardouin, Alexandre Arnoux et Claire Maffei, Valentine Tessier et Françoise Roset. C'était une émission d'André Parineau, réalisé par Pierre Billard.
C'était Colette et ses personnages, hommage à l'écrivain diffusé la première fois le 14 décembre 1955. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter cette émission éternellement à la page des nuits de France Culture.